Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Alors que le prix Goncourt a été remis ce midi à Mohamed Mbougarsar, notre jour J de ce soir est le 17 novembre 1975. Émile Ajar reçoit le Goncourt, un prix qu'il devra refuser 3 jours plus tard. Normal, Émile Ajar n'existe pas, il est en réalité Romain Gary, lauréat en 1956. Nous sommes le 17 novembre 1975. Depuis le restaurant Drouan à Paris, Armand Lanoux, membre de l'Académie Goncourt, annonce à la foule de journalistes qui s'impatientent le nom du lauréat.
Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé « La vie devant soi ».
Émile Ajar, personne ne l'a vu, personne ne le connaît, sinon qu'il s'est déjà fait remarquer un an plus tôt avec son premier livre « Gros câlin » qui a rencontré un franc succès. Selon Michel Cournot, son directeur littéraire aux éditions Mercure de France, Émile Ajar est un Français né à Oran qui vit au Brésil, où il se serait réfugié après avoir été poursuivi pour avoir commis des avortements clandestins en France. Au comité du Goncourt, peu importe qui se trouve derrière le livre, c'est la plume qui compte.
Je crois qu'on n'a pas à s'occuper de ça. Comment est-ce qu'on commence à s'occuper des opinions, du passé, du futur de la personne? On oublie l'œuvre et finalement, je ne crois pas qu'on ait à tenir compte de ça.
3 jours plus tard, c'est la stupeur générale. Émile Ajar refuse le prix. L'Académie Goncourt ne peut accepter une telle décision. Nous votons pour un livre, non pour un candidat. Le prix Goncourt ne peut ni s'accepter, ni se refuser, pas plus que la naissance ou la mort. Monsieur Ajar reste couronné, annonce alors Hervé Bazin, le président de l'Académie. Mais ce qu'Hervé Bazin et le monde entier ignorent, c'est qu'Émile Ajar n'existe pas et qu'en réalité, le prix de cette année vient d'être décerné au lauréat du même prix en 1956 pour son ouvrage « Les racines du ciel », Romain Gary. Or, c'est la règle. Un auteur ne peut recevoir 2 fois l'un des prix littéraires les plus prestigieux du monde. Romain Gary, l'écrivain, l'auteur de « La promesse de l'aube », le scénariste, le compagnon de la libération, l'aviateur, le diplomate, n'avait-il pas assez de vie comme cela pour qu'il lui faille s'en inventer une nouvelle? Émile Ajar est donc Romain Gary. Romain Gary est donc Émile Ajar. Ce n'est pas la première fois qu'il se prête au jeu de la supercherie littéraire. Ce n'est un secret pour personne dans le milieu. Il a déjà signé des écrits sous les noms de René Deville, Jack Ribbons, Fosco Sinibaldi ou encore Chattat Bogat. Mais cette fois-ci, Gary va encore plus loin. Il demande à son petit cousin, Paul Pavlovitch, d'endosser publiquement le rôle du mystérieux Émile Ajar. Paul, il est beau, il a 33 ans, il est passionné de littérature, un Ajar idéal que Romain Gary va former au mensonge, façonner à son image. Il lui donne des clés, des indices pour brouiller les pistes. Il l'envoie à Copenhague, puis en Suisse. Il lui fait rencontrer des journalistes triés sur le volet qui pourront le dire. « Émile Ajar existe, moi je l'ai vu !» Paul Pavlovitch interprète son nouveau rôle à la perfection. Pour être crédible, il ne faut pas mentir tout à fait. Alors il livre quelques informations personnelles qui attisent la curiosité d'un journaliste qui lui-même finit par trouver le lien de parenté entre Paul et Romain Gary. « Tiens !» Et si Gary était Émile Ajar? Romain Gary s'enfonce dans le mensonge et dans la supercherie, s'offusque et rédige un démenti en une du journal Le Monde. Mais un secret, c'est lourd à porter, en plus d'un passé torturé, d'un penchant pour la boisson, de tourments sentimentaux. Il persiste et signe jusqu'à sa mort, le 2 décembre 1980, quand on le retrouve chez lui en robe de chambre rouge, après s'être tiré une balle de pistolet dans la bouche. Romain Gary aura emporté ses secrets dans les eaux de la Méditerranée, où ses cendres seront alors dispersées. Quant à la vérité sur Émile Ajar, on l'apprendra plus tard dans un ouvrage de Paul Pavlovitch intitulé « L'homme que l'on croyait ». Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Jour J, vous le savez, c'est le rendez-vous des souvenirs, de l'actualité et de la connaissance. Et ce soir, notre Jour J est le 17 novembre 1975. C'est l'effervescence dans les maisons d'édition françaises. Qui, cette année, aura le Goncourt, l'un des prix littéraires les plus prestigieux au monde? Le 17 novembre au matin, Émile Ajar est annoncé favori. Il a sorti un premier livre il y a un an, Gros câlin, mais de lui, on ne sait rien. Un journaliste Ernest Dupoint, Jacques Bonzerand a pu le rencontrer. Voici ce qu'il retient du mystérieux écrivain.
Il a surtout expliqué pourquoi il ne voulait pas du tout qu'on le reconnaisse. Et ses raisons sont tout à fait honorables. C'est quelqu'un qui veut absolument protéger sa vie privée. Il dit c'est ma vie privée, c'est ma vie elle-même, c'est ma respiration et je ne tiens absolument pas à ce qu'on mêle ce que je fais en tant qu'écrivain, qui est la part que je donne à la société, et ma vie à moi, qui est ma part personnelle dans laquelle je n'entends que personne ne s'immisce.
Voilà un écrivain bien discret, Émile Ajar, et on comprendra un petit peu plus tard qu'il s'agissait en réalité de Romain Gary. Philippe Colli, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes auteur et réalisateur d'un très beau documentaire, Le Roman du Double, qu'on peut retrouver actuellement sur les plateformes et notamment sur Arte. Pendant que tout le monde s'agite ce jour-là, justement, ce fameux 17 novembre au matin, que l'on entend sur les ondes qu'Émile Ajar est favori, qu'est-ce qui fait Romain Gary à votre avis ?
Ça, c'est une question délicate. Romain Gary, là, on est 17 novembre 75. Il commence à être un peu dépassé par la boule de neige qu'il a lancée sur la pente.
Voilà.
Et qui est devenue presque une avalanche, quoi. Médiatique, de succès. Il y a déjà 450 000 exemplaires qui sont plus ou moins vendus. Bientôt, ce sera 1 million avec les livres de poche.
Du livre La vie devant soi.
Hein, du livre La vie
devant
soi.
Qui va recevoir effectivement aujourd'hui le prix Goncourt.
Mais je pense que Romain Gary, c'est un mélange. Il est à fois, il jubile, il est heureux parce qu'il a accompli son rêve jusqu'au bout de transgresser les limites. Et en même temps, il est effrayé, certainement, parce qu'il doit prendre une décision. Qu'est-ce que je fais ?
Voilà, qu'est-ce que je fais si je reçois ce prix Goncourt alors qu'effectivement il est annoncé favori sous le pseudonyme d'Émile Ajar, mais on insiste encore à ce moment-là, personne ne le sait, même Jacques Bonzerand, le journaliste au Point, qui dit bah oui, moi je l'ai vu, c'est quelqu'un qui cherche à préserver finalement sa vie privée, à dissocier l'homme de l'écrivain. Il a rencontré, on le verra plus tard, un certain Paul Pavlovitch qui portera les traits de ce fameux Émile Ajar. Mais ce que vous nous dites là en fait, c'est que Romain Gary, à un moment donné, bah aujourd'hui, là, le jour du prix Goncourt, pardon de le dire comme ça, c'est un petit peu vert, mais il est un peu dans la merde, quoi. C'est-à-dire que sa supercherie lui échappe.
Il franchit une limite, là.
Bah oui, ouais. Et une limite quand même très très compliquée. Qui est ouais. Romain Gary à cette époque-là ?
Alors Romain Gary, officiel, version du jour, disons, c'est un auteur démodé.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'on est en 74-75 et il est gaulliste. Et être gaulliste au moment où Giscard prend le pouvoir, c'est mal vu, quoi. Mmh. C'est toute une clique de ministres, Raymond Marcellin, Roger Frey, etc., qui sont des vieilles figures, etc., dont on a envie de se débarrasser, hein. Mais 68 est passé par là. Donc, Romain Gary, lui, c'est un autre de Gaulle. C'est celui de la libération, compagnon de la libération, de la deuxième guerre. Donc, c'est un auteur démodé.
Alors c'est un auteur démodé qui lui-même a été lauréat du prix Goncourt en 1956, donc il y a quand même, ça finit par dater, hein, ça fait presque 20 ans en 1975 que Romain Gary a reçu donc le prix Goncourt avec Les Racines du Ciel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs les plus jeunes qui était Romain Gary, d'où venait-il ?
Romain Gary, qui s'appelle pas Romain Gary mais qui s'appelle Roman Kassev, il est né à ce qui est aujourd'hui Vilnius, qui à l'époque s'appelait Vilna quand il est né en 1914, qui était en Russie. Puis la guerre de 14 est arrivée, les Allemands ont envahi Vilna et donc il a fui avec sa mère à l'intérieur de la Russie parce qu'à l'époque Vilna était russe. Hein. Mm-hmm. Quand il est revenu à Vilna, Vilna était devenue Vilno, était devenue une ville polonaise, c'est la Pologne. Là il a vécu avec sa mère et bon, c'est un, disons, c'est un juif polonais. Gary, disons en gros, quoi. Sa mère était juive, son père aussi. Gary a un problème avec le réel. Le réel, pour lui, qu'il appelle la puissance, ce qui va expliquer d'ailleurs Émile Ajar, etc. C'est une mauvaise blague pour lui. Son père a quitté la mère très, très tôt. Ils sont tous les deux, sa mère et lui. Sa mère ne s'est jamais remariée, n'a pas eu d'autre homme que lui. Mm-hmm. Donc il est l'homme de sa vie. Mm-hmm. Et donc, ils attendent le mandat du père pour payer le loyer. Il y a très peu d'argent. Sa mère est maudite. Elle fait de la couture, en fait. Et donc, ils vont être obligés, assez rapidement, de quitter Vilno, qui deviendra Vilnius plus tard, en Lituanie, pour aller vers la France. Parce que le rêve de la mère, toujours, c'est la France, terre de liberté. La Terre des Lumières, la Terre de la Révolution, qui était très importante à l'époque. Hein. Dans les années 1920, la France, c'était vraiment un phare. Et donc, il est l'homme de sa mère, il est l'homme de la vie de sa mère, et il part avec elle, et il fuit de Varsovie jusqu'à Nice, où ils arrivent en 1928.
Et cette mère qui sera l'héroïne de l'ouvrage La promesse de l'aube, qui effectivement va vivre complètement par procuration hein, à travers Romain Gary, et qui lui écrira à l'avance un destin qu'il embrassera d'ailleurs hein, pour la plupart des fonctions qu'elle aura voulu lui prêter, un destin qu'il embrassera lui-même.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J. Il a commis l'exploit de recevoir le prix Goncourt à deux reprises alors que le règlement l'interdit. Lui, c'est Romain Gary, lauréat en 1956 avec Les Racines du Ciel et en 1975 avec La Vie devant soi sous le nom d'Émile Ajar. Mais à cette époque-là, personne ne le sait et tout le monde est loin d'imaginer que l'auteur de La promesse de l'aube a mis au point une supercherie, un double jeu qui va effectivement complètement le dépasser. Philippe Colli, vous êtes notre invité ce soir. Merci d'être là. Vous êtes auteur, réalisateur d'un documentaire qui s'intitule Le roman du double et qui raconte justement ce double qu'était Gary. Mais en fait, Gary, il avait déjà fait appel à des pseudos. Et là, en fait, finalement, les choses lui ont échappé parce qu'on est allé jusqu'au Goncourt. Mais il s'était déjà allé à d'autres formes d'écriture avec d'autres personnages. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin toujours d'écrire sous le nom d'une autre personne?
Romain Gary, déjà, est un pseudonyme hein, ouais. Parce qu'il s'appelle Romain Cassev.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce rapport de Gary avec le réel, qui est une mauvaise blague pour lui, qui ne supporte pas le père qui n'existait pas, il a pratiquement pas connu son père, parce que le père est parti pendant la guerre de 14, il est né en 1914. Quand il est revenu en 1920, le père il est parti en 1921, donc il a à peine connu, donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu de père, et qui était l'homme de sa mère, qui était tenu d'être l'homme, ça c'est très important. Dans son rapport avec le réel, il veut imposer sa mère, c'est pas par hasard qu'elle appelle Roman. Donc il va soumettre le réel à la loi de Roman. C'est ce qu'il fait avec Émile Ajar.
Bien sûr.
Il accomplit sa grande œuvre, en fait, avec Émile Ajar. Pour soumettre le réel, déjà, il prend des pseudonymes, parce que Romain Cassev, ça lui plaît pas, quoi. C'est pas quelque chose de littéraire qui va lui attirer la gloire, etc. Donc, ils choisissent le pseudonyme, déjà, de Romain Gary, avec sa mère, ensemble. Entre mille, quoi. Enfin, un grand nombre. Et puis, effectivement, après, il prend des pseudonymes, Fosco Sinibaldi, Châtain-Bogat.
Oui. Châtain-Bogat qui sortira un livre en même temps qu'Émile Ajar.
Oui. C'est un leurre, ça.
Mais c'est dingue. Ouais. Et en fait, alors pour que nos auditeurs comprennent bien, Châtain-Bogat a sorti un livre en même temps que Gros câlin, le premier livre d'Émile Ajar, pour qu'à un moment donné, on puisse, mais c'est là où Gary est complètement supérieur, je dirais machiavélique, pour que l'on puisse à un moment donné associer Gary à Châtain-Bogat et surtout pas l'associer à Émile Ajar.
Oui.
Pour laisser libre cours à Émile Ajar.
Je dirais que pour moi, Gary est le plus grand metteur en scène. Ouais. De la deuxième moitié du XXe siècle, même peut-être bien au-delà. C'est un metteur en scène du réel, insurpassable et insurpassé.
Alors, racontez-nous comment il a établi son scénario avec Émile Ajar. Qu'est-ce qu'il s'est dit avec Émile Ajar? Qui était dans la confidence, tiens?
Alors, dans la confidence, il n'y avait qu'une seule personne, qui était Robert Gallimard, qui était son éditeur chez Gallimard, qui était le cousin de Claude Gallimard, qui était le patron. Et Robert Gallimard, qui est une tombe, a accepté de garder le secret. Il a vu ça comme une supercherie littéraire, puisqu'il n'y avait pas le Goncourt au départ. Donc un scénario a été établi, comme quoi Émile Ajar est en fait un auteur inaccessible, parce qu'il vit au Brésil. C'est un jeune médecin qui a fait des avortements. À l'époque, il n'y a pas la loi Veil.
Eh oui, bien sûr.
Donc, il est obligé de rester au Brésil. Donc, il transmet ses manuscrits par une hôtesse de l'air sympathique jusque chez Gallimard. Et en fait, ils viennent de la rue du Bac qui est à 200 mètres de chez Gallimard.
Évidemment. Donc ça, c'est le début de la supercherie. Donc, il doit se marrer, en fait. Hein. Donc, il est Romain Gary le matin, il est Émile Ajar l'après-midi. Il envoie ses écrits chez son éditeur aux équipes des éditions Gallimard qu'il est en réalité au Brésil. Et puis, un jour, les choses, évidemment, se gâtent. On va en parler dans un instant. car ça ne pouvait pas rester aussi facile que ça. Et quelque part, on se demande, quand on regarde votre documentaire, jusqu'où Romain Gary a joui de cette situation. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Georgie qui se poursuit et qui vous raconte ce soir un coup de génie qui a quand même un jour viré au drame. C'est celui de Romain Gary qui, s'ennuyant, trouvant ses écrits reçus par la critique avec la désinvolture de l'habitude, a créé un personnage, un autre, son autre je dirais, lui-même écrivain, Émile Ajar. Après avoir sorti un premier ouvrage, Émile Ajar reçoit donc le prix Goncourt en 1975 pour le livre La vie devant soi, faisant de Romain Gary un auteur couronné deux fois, ce qui est impossible au regard du règlement. Émile Ajar, il a du talent, ça on le sait. Il a une vie singulière, on va l'apprendre au fur et à mesure, mais il n'existe qu'à travers des mots et de ce que l'on en a dit. Il lui faut donc un visage, il lui faut un corps, il lui faut un regard. Philippe Colli, vous êtes notre invité, ce sera donc Paul Pavlovitch. Qui était-il ?
Paul Pavlovitch, c'est pas n'importe qui.
Non.
C'est là où Gary a eu beaucoup de chance dans sa mystification, parce que Paul, avec qui j'ai eu une relation d'amitié ensuite, parce que c'est vraiment quelqu'un de passionnant, c'est un homme très intelligent, qui était, plus ou moins, faisait des travaux littéraires, à gauche et à droite, dans des maisons d'édition, donc c'est le petit cousin de Romain Gary. Et Romain Gary a aidé sa mère, Dina, quand elle était en difficulté, l'a soutenue, parce que Gary était quelqu'un de très généreux. Il soutenait des gens sans le dire, etc. Donc, sous des dehors de baroudeurs, c'est quelqu'un qui avait un cœur d'or. Paul Pavlovitch, qui lui-même assez aventurier, qui lui-même est assez intéressé par le thème du double, qui ensuite est devenu écrivain et qui a écrit un livre prolongeant les aventures de Monsieur Ripley et de Patricia Highsmith. Mmh. Donc, le double, pour lui, c'était une aubaine, Paul. Mmh. Et c'est vrai que Paul a, comment dire, une dégaine, un côté sauvage, un côté transgressif qui coïncide totalement avec le style d'Émile Ajar.
Exactement, il correspond parfaitement au personnage créé par Romain Gary. Et en plus de ça, il a une bonne gueule de baroudeur qu'on peut très bien voir venir du Brésil, hein, puisque c'est là-bas qu'il était censé vivre.
Absolument, oui. Et puis...
Donc il le façonne en fait, hein, Romain Gary, parce qu'il lui donne des ajarismes, il lui explique son écriture, il lui donne des informations de sorte qu'il puisse à un moment donné brouiller les pistes.
Tout à fait, mais surtout être tout à fait crédible en tant que réel Émile Ajar, qu'il n'est pas, puisqu'il est la marionnette de Gary au départ. Mais ce qu'il y a, c'est que très vite, Paul va s'échapper.
Mmh.
Justement, parce qu'il a une vraie personnalité.
Mmh. Quand vous dites qu'il s'échappe, il ne s'échappe pas physiquement, hein, mais en revanche, il échappe à son créateur,
Absolument.
Romain Gary.
Absolument, oui. Et donc, Gary, par exemple, a écrit tout un scénario comme quoi Émile Ajar est né à Oran, qu'il est médecin, etc. Bon, qu'il s'est réfugié au Brésil. Mais lors de la première grande interview qui aura lieu, Paul va dire tout à fait autre chose. Il va raconter sa propre vie.
C'est ça. C'est
et
ça.
Là, Gary, il voit que Émile Ajar commence à lui échapper.
Ouais.
Ça ne lui plaît pas du tout, du tout.
Et alors, donc, il va même livrer une photo de lui à la presse, hein, Paul Pavlovitch,
oui.
Donc
oui.
Émile Ajar. Donc on découvre tout à coup le visage d'Émile Ajar.
Voilà. Première initiative de Paul qui fait ça spontanément, hein, qui livre sa photo et puis qui ensuite livre des vrais fragments de sa biographie. Je suis né à Nice, j'ai fait des études de droit et de médecine à Toulouse, tout ça est vrai.
Alors tout ça est vrai, comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il vous en a parlé justement, Paul Pavlovitch? Comment est-ce que Romain Gary à un moment donné réagit quand il voit sa création lui échapper? En fait ça n'était pas sa création, c'était un être humain.
Exactement, mais Paul Pavlovitch, il a entièrement raison quand il dit « je voulais mentir près de ma vérité
».
C'est comme ça qu'on est un bon menteur. Il y a 15% de menteurs, pour faire passer Émile Ajar, il fallait qu'il raconte ce qu'il était lui-même. Là il devient totalement crédible.
Et alors, Romain Gary, il est rentré dans une sorte d'angoisse, parce que c'est comme ça aussi, et c'est ce que j'explique en début d'émission, que finalement, les journalistes, et notamment un journaliste du Point, va faire le lien entre Paul Pavlovitch et Romain Gary, et Romain Gary va se sentir acculé. Ça va déjà le mettre dans une grande détresse.
Alors, ils font pas le lien entre les deux personnes, mais ils savent que...
Le lien de parenté, en tout cas.
Que c'est le petit cousin de Romain Gary et qu'il habite rue du Bac, dans les chambres de Bonne, chez Romain Gary.
Alors c'est là, un peu chelou, quoi.
Oui, oui, mais Romain Gary est encore plus fort que ça.
Oui, oui, c'est ça.
Et donc, va tirer parti de cette situation pour la rendre évidente.
Alors, racontez-nous comment.
Eh bien, au moment où on sait que c'est Paul Pavlovitch, on l'a trouvé, et qu'il est le petit cousin de Gary, qu'il habite à Paris, rue du Bac, etc., il y a 200 journalistes qui sont en bas, rue du Bac, etc. Donc, Gary téléphone à la femme de Paul Pavlovitch, qui est également un personnage très important, Annie, qui a beaucoup de bon sens et qui est remarquable, et lui dit « Je suis foutu, ils sont tous là, ils vont savoir que c'est moi, je vais me tuer. » Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ton petit cousin qui écrit, et qui écrit sous influence, etc., c'est pas de ta faute. » Bon, et là, tout de suite, il a vu qu'il avait un nouveau rôle à jouer, puisque Gary est un metteur en scène et un comédien qui se met lui-même en scène, qui est celui de l'oncle bienveillant, qui dit « Oui, Paul, c'est vrai, il m'a beaucoup lu. » Il m'a beaucoup lu, donc c'est normal qu'on retrouve des phrases de Gary chez Ajar, mais je ne peux pas lui en vouloir. C'est un garçon qui a un cœur d'or, je lui souhaite de continuer, il faut qu'il continue à écrire des livres. Donc, c'est le rôle de l'oncle bienveillant, il est formidable.
Voilà, et il a été brillant, effectivement. S'en suivront d'autres ouvrages que Romain Gary écrira pour Émile Ajar. On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J.
Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit sur RTL et vous emmène dans les méandres d'un gros coup de bluff de ce qui aurait pu rester une énorme farce littéraire, mais dont les ressorts sont trop dramatiques pour le résumer à cela. Philippe Colli, vous êtes notre invité. Vous êtes l'auteur et réalisateur d'un documentaire que je conseille à tous ceux qui sont intéressés par l'histoire que l'on raconte ce soir et qui s'intitule Le roman du double. Notre Jour J, c'est le 17 novembre 1975. Émile Ajar donc va recevoir le prix Goncourt pour le roman La vie devant soi, écrit en réalité par Romain Gary, puisque Émile Ajar, c'est Romain Gary. Et en fait, certains voulaient le prévenir. Ils lui ont dit « Arrête, arrête tes délires, Romain. Je dirais, là, tu cours à la catastrophe. »
Absolument. Et donc, les quelques rarissimes personnes qui étaient dans la confidence, notamment Robert Gallimard, lui dit « Maintenant, tu refuses le prix, tu te démasques, c'est plus possible. » Et Gisèle Halimi, qui était son avocate, qui était dans la confidence, a dit pareil. Bon. Et Gary leur a dit, entre guillemets, merde, quoi. C'est-à-dire,
il s'est obstiné.
Non. Alors ça, c'est, pour moi, c'est très important, c'est le moment clé de cette histoire. Parce que, en fait, je dirais presque que son premier prix Goncourt, c'était celui de sa mère. Les Racines du Ciel. Pourquoi ? Parce que Les Racines du Ciel, c'est l'histoire d'un aventurier qui veut sauvegarder les éléphants en Afrique, le Tchad. Donc, on est encore dans l'idée d'un homme aventurier et fort. Gros câlin, Émile Ajar, Michel Cousin, c'est un tout petit bonhomme qui vit dans un bureau, il fait des statistiques, qui, pour la tendresse du soir, il a un python avec lequel il s'enroule. Donc, ce petit bonhomme, sa mère n'aurait jamais voulu qu'il existe. Donc, il exprime, il accomplit une part de lui-même que sa mère, qui n'avait jamais eu droit de citer devant le regard de sa mère. Sa mère est morte, elle est morte à 60 ans, donc il a 60 ans. Et il échappe, sous le nom d'Émile Ajar, au regard de sa mère, et il exprime une part de lui qu'il n'a jamais dite, jamais racontée dans ses autres livres. C'est pour ça qu'il ne veut pas renoncer à Émile Ajar, et que dans une certaine mesure, Émile Ajar est son premier prix Goncourt.
Voilà, et Émile Ajar est une forme de libération, hein. C'est ça aussi que vous nous dites, ça permet à Romain Gary de s'exprimer comme il n'avait jamais pu le faire auparavant, et surtout du temps de sa mère,
parce que
de sa mère vivante.
Sa mère représentait l'amour de la langue française aussi.
Bien sûr, bien
sûr. Le beau style, le Gary, etc.
Alors qu'Émile Ajar avait un style beaucoup plus libéré.
C'est du parler, c'est la transgression permanente, etc. Donc, l'art de la formule, quoi. C'est...
Voilà, et si Émile Ajar a sauvé un temps Romain Gary, ça n'a pas toujours été le cas, puisque le 2 décembre 1980, voici ce que l'on entendait sur RTL, il était 22h.
La dernière minute, je la découvre en même temps que Jean-Claude Larivoire me tend une feuille de papier. Romain Gary a mis fin à ses jours, aujourd'hui à 17h au 108 rue du Bac, il a laissé un texte expliquant que c'est dans son ouvrage autobiographique que l'on pourrait expliquer, s'expliquer plutôt son suicide. Son ouvrage en question, c'est « La nuit sera calme ».
En fait, Romain Gary aura livré des indices dans tous ses livres. Hein. C'est quelque part aussi ce que l'on voit, des indices de lui-même et même des projections de sa vie, Philippe Colli.
Oui, beaucoup dans les livres d'Ajar.
C'est ça.
Où il s'exprime comme jamais.
Est-ce que le suicide de Romain Gary était envisageable au regard de sa personnalité? Est-ce que ça faisait partie du champ des possibles concernant Romain Gary?
Oui. Vous savez, Gary, quand il dit quelque chose d'une manière légère, sous l'angle de la plaisanterie, il faut toujours le prendre au sérieux. Mmh. Il dit, par exemple, à un critique, André Bourin, 15 ans avant, « Vous savez, je ne ferai pas de vieux os. » Il faut le prendre au sérieux. Mmh. Et quand il dit aussi à Pierre Dumayet, finalement, c'est ma mère qui a eu ce prix Goncourt en parlant des Racines du ciel, il faut le prendre au sérieux. Mmh. Donc, Gary, c'est un peu Peter Pan, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas... il n'a pas eu de père. Donc, il n'a pas l'image d'un homme plus âgé que lui, qui va atteindre le grand âge, etc. Ça n'existe pas. Donc... c'est un homme tout puissant, Peter Pan, et il peut pas faire de vieux os.
Une personnalité extrêmement complexe, dont on découvrira, je dirais, l'étendue de la complexité après sa mort. Le 3 juillet 1981, Bernard Pivot commence son émission littéraire apostrophe comme cela.
Bonsoir à tous. Le 2 décembre 1980, Romain Gary se tirait une balle dans la gorge. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, et par le même geste, Émile Ajar s'était suicidé lui aussi.
C'est Paul Pavlovitch hein, qui aura la primeur de la vérité, en fait, en réalité, Philippe Colli.
Ça me semble bien normal,
ouais,
puisque
ouais.
C'est lui qui, en fait, qui incarnait Ajar et qui jouait son identité là-dedans. Mm-hmm. Donc,
il va écrire un livre, L'homme que l'on croyait,
oui.
Et dans lequel il livre sa vérité.
Oui. Et il y a eu un contrat entre Gary et Ajar et Paul, parce que l'un et l'autre avaient peur que chacun révèle. Mmh. Et donc, Gary qui était hyper angoissé en disant « Mais si on révèle, je vais être banni à la cour des Invalides, la justice va me poursuivre, le fils va me tomber dessus, etc. » Enfin, c'était l'angoisse absolue. Et Paul, dans le contrat, si c'était lui qui révélait, il perdait tous les droits d'auteur. Mmh. Mais c'est lui qui a révélé, il jouait son identité, là.
Voilà, et plusieurs mois donc après la mort donc, de Romain Gary. Merci beaucoup Philippe Colli d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Je conseille donc votre documentaire, Le roman du double. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL. Nous serons le 2 juillet 2008. L'otage Ingrid Betancourt est libérée après avoir passé plus de 6 ans aux mains des FARC. Bonne soirée sur RTL et à demain, je vous embrasse.